Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Mélanie.
Salut Gauthier.
Je suis très content de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va parler du UX writing et surtout de l'équipe des UX writers de chez Conto. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien s'il te plaît un te présenter et deux présenter Conto?
Bien sûr, merci déjà de me recevoir Gauthier. Donc je m'appelle Mélanie, je travaille en tant que lead UX writer chez Conto. J'ai rejoint la boîte il y a 3 ans maintenant. Et donc pour présenter Conto en quelques mots, c'est vraiment une solution de gestion financière donc pour les solopreneurs, les associations, les plus grosses boîtes. Et donc on accompagne vraiment nos clients au quotidien dans leur gestion financière. Et ils pourront accéder donc à leur carte, à leur facturation. Et vraiment l'idée, c'est qu'ils puissent gérer tout depuis Conto pour se focus sur ce qui a réellement de l'importance pour eux, et c'est-à-dire leur business.
Super. Comme tu l'as dit, en fait, au moment où l'épisode va sortir, ça fera 3 ans que tu es dans la boîte.
Exactement.
Tu es passé par plein de postes. Tu as commencé en tant que product copywriter, ensuite tu as fait UX writer, senior UX writer et maintenant lead UX writer, comme tu l'as dit. On va commencer un petit peu par des thèmes, par le thème du wording du mot en tant que tel. Je voudrais bien comprendre quelle est la différence entre un UX writer et un product copywriter, déjà pour qu'on comprenne bien pourquoi tu es passé de l'un à l'autre.
Exactement. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai l'impression en 3 ans d'avoir vécu 1000 vies chez Conto. Quand j'ai rejoint Conto, j'ai effectivement rejoint en tant que product copywriter. Et à l'époque, je travaillais donc main dans la main avec la product marketing manager. Et moi, en fait, j'étais en charge de tout le contenu hors de l'application, mais lié au produit. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on allait sortir une fonctionnalité et qu'on allait communiquer dessus, basé sur le go-to-market qui avait fait la product marketing manager, on allait lister un peu les différentes communications qu'on allait faire. Et moi, je travaillais sur ça. Donc, ça pouvait être vraiment les emails un peu plus axés marketing. D'accord. Pour présenter du coup la fonctionnalité et un peu les use cases pertinent. Ça pouvait être un article de blog post, ça pouvait être les articles de foire aux questions, et c'était vraiment plus sur l'usage et comment ça fonctionne et donner envie en fait du coup d'utiliser le produit. Donc ça, c'était mon rôle en tant que product copywriter. Et ensuite du coup, mon rôle plutôt en tant que UX writer, c'était du coup expliquer comment fonctionne le produit dans le produit lui-même. Et là du coup, j'ai vraiment commencé à ne me focus que sur le contenu dans les différentes applications, aussi bien desktop que mobile.
Super. Et du coup, est-ce que tu peux me donner pour toi, c'est quoi ta définition d'un UX writer ?
UX writer, ouais. En vrai, la question est tellement générique, mais je pense qu'on a chacun aussi sa définition. Mais ça va être vraiment cette idée de, du coup, donner la bonne information au bon moment, à la bonne place, en fait. Et s'assurer, du coup, que l'expérience de l'utilisateur à cet instant T, elle est cohérente, qu'il a tout ce dont il a besoin pour pouvoir avancer dans son parcours sans friction et que ce soit le plus clair et le plus simple en fait possible pour lui.
Très bien. J'ai une dernière question là-dessus, c'est aujourd'hui on parle de plus en plus de content designer. C'est quoi la différence avec un UX writer et pourquoi vous avez décidé de rester UX writer et pas content designer ?
Effectivement, il y a vraiment les deux appellations. On s'est aussi beaucoup posé la question. Entre nous, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend vraiment de chacun son point de vue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé tout de suite ? Parce que honnêtement, on a d'autres batailles à mener pour l'instant. Vraiment, c'est plus ça. Et reste qu'en fait, sur le marché, UX writer est encore le plus répandu. Donc, il y a aussi une question de recrutement, comment on peut aussi plus facilement recruter et être visible. Et surtout, je pense qu'il y a encore tellement d'éducation et d'évangélisation à faire autour de l'UX writing. même en interne, parce que Conto scale beaucoup, donc on a des gens qui arrivent toutes les deux semaines. Et parfois, ça peut être encore dur d'assimiler UX Writing. Et en fait, si on commence à changer maintenant pour du content design. Et en fait, je pense qu'il y a les deux écoles. Content design, j'ai aussi peur que ce qu'on soit très associé vraiment à la partie contenu pur et dur, donc plus marketing.
D'accord.
UX Writing, voilà, on a quand même cette idée aussi d'expérience utilisateur. Et Amy, je préfère qu'on nous associe vraiment à ça, qu'on garde la partie UX plutôt que vraiment que la partie contenu.
Très clair. Tu as parlé d'évangélisation, que ce soit en externe ou en interne. On va reparler de ces sujets-là aujourd'hui. Avant, j'aimerais juste un peu recontextualiser. Est-ce que c'est toi la première UX writer à avoir rejoint Conto?
Alors, il y avait, moi, quand je suis arrivée, donc une personne qui s'occupait de tout le contenu de l'application.
D'accord.
Je pense que son rôle était aussi product copywriter et du coup, ce rôle du UX writing s'est un petit peu créé, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, du coup, donc cette personne qui travaillait sur le contenu était vraiment impliquée tout à la fin, aussi pour une question de bande passante, de ressources. Il était tout seul, mais c'était vraiment un peu la partie cerise sur le gâteau, les petites paillettes à la fin. Le contenu avait déjà été travaillé par le product designer et le product manager. Et je crois que un mois après mon arrivée, donc quelques mois après mon arrivée, il est parti. Et c'est là où on m'a proposé du coup de reprendre cette partie dans mon scope, vu que je m'occupais déjà de la partie communication hors produit. Ok, est-ce que tu veux essayer dans le produit? Moi, je venais vraiment de me former à l'UX writing. J'avais été hyper honnête, genre j'ai la théorie, pas la pratique. Et on s'est dit écoute, chez Conto, c'est très test and learn, et on s'est dit vas-y, essaye, on voit ce que ça donne. Et donc pareil, j'étais impliquée vraiment à la fin, et sauf qu'en fait une fois, deux fois, trois fois, il y a un truc qui fonctionne pas là les gars, et en fait on peut pas faire de magie. C'est souvent ça, c'est un peu bancal ici, mais Mélanie elle fera sa magie, c'est pas un problème. Et en fait je peux pas, je veux bien mais je peux pas. Et donc c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure j'ai commencé en fait à remonter un peu la chaîne de prod. Et c'est là où on a vraiment créé du coup cette partie, enfin vraiment ce rôle du UX writer tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et donc voilà, ça a été de remonter, de se dire là c'est cassé, il faudrait qu'on aille plus loin. Et après ça, les product designers, product managers venaient directement me voir et de ok, en fait on est en train de travailler là-dessus, on aurait vraiment besoin du coup de que tu participes dès maintenant, que tu nous donnes du coup ta vision d'un point de vue contenu, qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait c'est là où on a commencé vraiment à façonner la solution ensemble. Et donc je suis restée je crois 8 mois comme ça toute seule du coup à travailler avec les product designers. Bon, à l'époque il y en avait une petite dizaine je crois. Aujourd'hui on est 80 dans le design studio, donc voilà, mais pour donner un peu l'échelle du scale. Et donc voilà, je travaillais toute seule, et jusqu'à ce que c'est beaucoup là pour une personne. Et c'est comme ça qu'on a eu une deuxième personne qui nous a rejoint, une troisième, et puis aujourd'hui on est 20 du coup côté UX Writing.
Putain, c'est énorme.
C'est énorme, effectivement. C'est vrai que je m'en rends pas tout le temps compte, mais juste de le dire, c'est énorme.
Ouais. C'est énorme, ouais. Mais on va reparler aussi des process de l'équipe, etc. Mais là, tu as parlé du fait d'arriver à la toute fin en tant qu'UX Writer dans les process, et c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Moi, ce que j'aimerais comprendre déjà dans un premier temps, c'est aujourd'hui, tu vois, l'UX writing, c'est vraiment très mal perçu, on va dire, ou en tout cas, la valeur n'est pas perçue. Et là, je le vois, tu arrives au bout de chaîne, donc on est là un peu comme on fait les interfaces, et toi, tu viens mettre un petit peu les mots à la fin, comme on disait avant, les designers viennent mettre la couche de peinture à la fin. Comment t'as fait pour vendre un peu justement ce rôle? Et plus largement, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah, il nous faudrait un UX writer dans notre équipe, mais on n'arrive pas à le vendre à nos managers, à nos dirigeants, parce qu'ils se disent « Ouais, on n'a pas le temps, c'est que des mots, et puis de toute façon, tout le monde sait écrire », les classiques. Comment ça s'est passé en interne, et comment tu conseillerais pour d'autres personnes de mettre ça en place ?
Ok. Je pense que moi, j'ai été très chanceuse. Parce que pour moi, ce qui est clé aussi, effectivement, peut-être pour mettre cette expertise en place, qui effectivement est soit méconnue, soit mal comprise, et effectivement, on a du mal encore à percevoir la valeur que ça peut avoir parfois. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un manager, quand je suis arrivée, qui était head of design, et qui, depuis le premier jour, comprenait du coup cette expertise et surtout la valeur que ça pouvait apporter. Après, de manière générale, chez Conto, le design a une énorme place. Ouais. Voilà, hein, c'est vraiment dans l'ADN Conto. Donc, parce que parfois encore, le design doit aussi se battre dans certaines boîtes. Donc, je pense que voilà, de manière générale, déjà, le design était très en place chez Conto. Et moi, la chance que j'ai eue, voilà, c'est d'avoir quelqu'un qui comprenait cette importance, qui était aussi très orienté, bah, du coup, contenu. Mais c'est pas contenu écriture, c'est vraiment information. Qu'est-ce que je partage, du coup, à mon utilisateur? Quelle information il a besoin de savoir? Et donc, c'est vrai qu'en interne, j'ai pas vraiment eu à vendre du coup l'UX Writing. Après, l'expertise telle qu'elle est en place aujourd'hui, on l'a affinée au fur et à mesure, et de se dire ok, c'est quand le meilleur moment pour intervenir, voilà, tout ça c'est des questions qu'on se pose encore 3 ans après, pour être très honnête. Donc ouais, ça c'est la chance que j'ai eue. Mais sinon, en fait, ça a été vraiment, et je pense le conseil que je peux donner du coup en externe, c'est plus de démontrer du coup cette valeur, pas juste de l'expliquer, de dire non mais en fait impliquez-moi, invitez-moi au meeting, mais va voir les product designers, va voir les product managers, assieds-toi avec eux, c'est tu bosses sur quoi en ce moment, qu'est-ce que tu fais, et donner un peu des conseils, et moi comment est-ce que je peux t'aider. Et en vrai, d'eux-mêmes ensuite, ils viendront aussi de ah ouais, en fait ça m'a vachement aidé, j'ai gagné un temps fou. Et c'est surtout, ils vont voir aussi qu'ils peuvent se concentrer sur là où eux apportent aussi réellement de la valeur et ont vraiment un impact énorme. Ça permet au product manager de se focus vraiment sur la conception du produit, au product designer de se focus vraiment aussi, c'est un binôme, ça c'est clé product designer UX writer, mais de se focus sur autre chose. On réfléchit bien sûr ensemble à la hiérarchie d'informations, à tout le parcours utilisateur, mais voilà. Côté ensuite UX Writer, tu finaliseras tout ça du coup avec le contenu, pendant que eux pourront se focus sur la partie plus design visuel, disons. Donc je passerai vraiment du principe de plus démontre et vraiment travail d'équipe, et ça va être vraiment plus par des conseils et en fait d'eux-mêmes vraiment ils verront cette valeur là. Et moi c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est une fois deux fois en fait mais là ça fonctionne pas, tu t'expliques pourquoi, et est-ce que vous avez pensé à faire ça, poser des questions. Et en tant que designer on devrait en poser 50 à la minute je pense, mais il y avait vraiment cette idée là et en fait effectivement c'est vraiment ce qui s'est passé. Par contre après, côté product design et product management, où du coup ils venaient me voir d'eux-mêmes dès le début, parce qu'en fait ils ont vu en fait la valeur que ça pouvait avoir et surtout l'impact que ça avait si je n'étais pas impliquée. Quand je dis je, c'est pas moi Mélanie, mais si l'UX writer n'était pas impliqué en amont, c'est qu'en fait on avait quelque chose qui n'était pas du tout quali. Et la qualité, c'est vraiment une de nos valeurs qui est vraiment très importante du coup chez Conto. Voilà, faire de la qualité. Donc, au final, on avait, quand on arrivait en delivery potentiellement, on avait ce qu'on appelle nous un rework. Et c'est on retourne en production parce que ça va pas, parce que c'est cassé, parce que ça fonctionne pas. Et en fait, quand tu le fais une fois, deux fois, c'est hyper frustrant de retravailler sur quelque chose sur lequel tu as travaillé depuis quelques semaines potentiellement. Et donc, ils se disent, OK, en fait, si j'ai ce problème en delivery, comment est-ce que je peux le tacler en amont? J'ai juste à inviter Mélanie au meeting, quoi. Et encore une fois, quand je dis Mélanie, n'importe quel UX writer.
Tu vois, là, tu parles déjà de quand il y a un UX writer dans une équipe.
Oui.
Comment tu vendrais ton rôle? Je vais te donner un exemple. Dans une de mes anciennes boîtes, on se prenait toujours la tête entre 4 mots qui voulaient dire la même chose, mais qui n'étaient pas tout à fait le même mot non plus.
Oui.
Et à chaque fois, on se posait toujours la question de « mais quel mot on met? Pourquoi on le met ?» Et à chaque fois, je leur disais « mais pourquoi on ne prend pas un UX writer ?» Ils étaient là genre « non, mais non, on est 4, on est des designers, on va trouver. » On était « mais non, en fait, on perd un temps fou. » Aujourd'hui, dans ma boîte, on a une UX writer. Et du coup, on gagne un temps de maboule. Il n'y a pas besoin de le démontrer, mais tu vois, tu as un peu l'entre-deux. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui avec les UX writers, ce qu'il y avait avec les product designers il y a encore quelques années, de se dire non, mais c'est que du design, moi je sais faire, là c'est que des mots. Comment tu donnerais quoi comme conseil pour, un product designer qui nous écoute, qui voudrait faire grossir son équipe, mais au lieu de prendre un autre product designer, prendre un UX writer parce qu'en fait c'est là où est le problème, mais où on va lui dire en fait non, c'est juste des mots, on se débrouille.
Mais je pense que tu l'as dit dans ta question, c'est ça va te faire gagner du temps. parce qu'en fait, c'est une vraie expertise. Ouais. Et tu auras quelqu'un, du coup, qui a cette expertise, qui a ce savoir. Et c'est pas non juste des mots, c'est effectivement hiérarchie d'information, taxonomie, du coup, microcopie. Y a une vraie maîtrise linguistique aussi à avoir. Potentiellement, si ton produit est localisé derrière, du coup, dans plusieurs langues, c'est des contraintes qu'il faut avoir également en tête. Donc non, il y a une vraie expertise linguistique, savoir écrire aussi, comment tu arrives à dire le plus de choses en très peu de mots.
Ouais.
Effectivement, comment tu arrives aussi à rationaliser tes choix et à faire du coup les bons choix d'un point de vue vraiment aussi grammatical, linguistique, les recherches que tu peux faire et te dire, ok, là, à cet instant, c'est validé et pas confirmé parce que l'action est différente, parce que potentiellement le composant est différent, le pattern est différent. Et je pense que tu l'as vraiment dit, en fait, c'est toi, ça va te faire gagner du temps parce que tu vas te focus sur autre chose, sur là où du coup, toi, tu peux avoir un plus grand impact et sur ce que personne d'autre, du coup, ne pourrait faire. Mmh. Et en tout cas, moi, c'est vrai que c'est vraiment le retour que j'ai eu de tous les product designers avec lesquels j'avais bossé quand j'étais plus sur le terrain. Et je pense qu'on peut demander à n'importe quel product designer chez Conto aujourd'hui, et sans prétention aucune quand je dis ça, mais ils nous ont vraiment tous dit que ça a changé aussi leur manière de travailler. Ils voient tellement plus de choses aussi. Ils sont aussi plus conscients peut-être des choix qu'ils font. Et effectivement, je pense que c'est une charge en moins pour eux, parce que déjà, d'une, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est vraiment un binôme qui travaille main dans la main. Et ça te permet vraiment, je pense, de voir un peu tous les cas, toutes les options, d'avoir bien plus de solutions. Et je pense que tu es moins... framé dans le sens où t'explores plus de choses et aussi bien d'un point de vue contenu, en termes de messages, de ok, qu'est-ce que je dis et où est-ce que je le mets, et ça influence forcément du coup aussi tes composants par rapport à la hiérarchie d'information. Mais ouais, c'est plus pour que chaque expertise puisse se focus sur là elle apporte le plus de valeur, je pense.
Très bien. J'ai un dernier point, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est plus l'évangélisation en interne. J'ai bien compris que prouver la valeur que tu apportes côté produit, il n'y a pas de problème. Vous avez fait l'erreur une fois, deux fois, maintenant, c'est bon. C'est plus au niveau de évangéliser ton rôle au niveau de la boîte. On en a parlé tout à l'heure, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est que les UX writers. Comment t'évangélises et comment t'expliques ton métier auprès d'autres personnes qui ne sont pas du tout, qui sont pas du tout du milieu?
Ouais. On doit le faire déjà, ne serait-ce que même côté produit, parce que on accueille des product managers et des product designers vraiment, comme je te disais, toutes les deux semaines à peu près, et parfois certains viennent de boîtes où il n'y avait pas du UX writer, où c'était eux qui faisaient le contenu, et c'est vrai qu'il y a ce côté de alors chez Conto ça va se passer un petit peu différemment, et voilà comment on travaille. Donc en fait, ça va vraiment passer par l'onboarding, c'est assez clé du coup de montrer de prendre le temps de rencontrer les gens, de montrer comment on travaille, qu'est-ce qui est déjà en place, du coup c'est quoi la collaboration qu'on a. Et à l'échelle de la boîte, ça peut passer vraiment d'une, on a tout qui est centralisé sur notre outil Notion, où vraiment on travaille qu'avec ça quasiment, et en fait tout est accessible à tout le monde, donc et chaque équipe a son espace, donc n'importe qui a envie d'en savoir plus sur l'UX writing accède à tout ce qu'on a, donc c'est très visible. Et il y a ensuite des sessions d'onboarding. On peut aussi, par exemple, on va le faire dans quelques mois, on a un format qui est assez cool qui s'appelle Lunch and Learn, où du coup, différentes équipes chez Conto présentent soit un use case, soit une problématique qu'on a tenté de résoudre, ou soit du coup leur expertise. Et par exemple, on va le faire là en interne, nous, d'ici quelques mois. Ça peut passer effectivement par des événements qu'on organise aussi. On a une série d'événements qui s'appelle Product Stories, du coup qui sont faites aussi en interne. On a fait une du coup récemment sur presque un an, mais sur l'UX writing. Et ça va vraiment prendre le temps. Il y a vraiment une vraie collaboration et un vrai travail d'équipe. Et en fait, je peux recevoir effectivement des messages de gens qui sont pas du tout dans mon équipe, mais de oh, j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce qu'on peut prendre un moment? Viens, on prend un café et on en discute. Donc ça va vraiment passer par ça.
Ok, trop bien. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez une vingtaine.
Oui.
Vous recrutez encore, je crois.
Oui.
Beaucoup.
Là, on est très focus sur le marché allemand, qui est l'un des plus compliqués pour le recrutement en UX writing, mais on continue à recruter, effectivement.
Ok, j'ai envie de parler un petit peu des profils dans l'équipe, déjà, dans un premier temps. Vous cherchez quoi comme profil? Parce que Le X-Writing, c'est pas vraiment enseigné dans les écoles. C'est pas vraiment un métier qui existe depuis longtemps. Hein, on va pas se mentir. Donc c'est un peu compliqué de trouver des seniors. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez comme profil? Parce que on peut pas vraiment dire vous cherchez des seniors qui font ce métier-là depuis des années, puisqu'en fait, le marché est ultra concurrentiel. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous cherchez?
Très bonne question. En vrai, il y a beaucoup de gens qui font de l'UX writing sans le savoir. Je pense que maintenant, c'est un peu moins le cas. Ils ont réussi à mettre un mot, du coup, sur ce qu'ils font. Mais j'ai rencontré je ne sais combien de candidats en 3 ans maintenant. Et souvent, en fait, c'était vraiment ce qui revenait de « mais en fait, je faisais de l'UX writing depuis déjà un moment et juste, je ne savais pas que c'était ça. » Donc, en vrai, il y a quand même des profils avec une certaine ancienneté. Nous, ce qu'on va regarder, je pense que c'est aussi pour que ça s'inclue du coup dans la culture qu'on a, culture d'entreprise et le fameux Contoway, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà, vraiment la vision qu'on a de manière générale chez Conto, mais encore plus dans le produit. Donc ça va être un mindset aussi, quelqu'un vraiment qui va... collaborer, réfléchir, qui va vraiment avoir ce goût aussi de la conception. Et c'est pas négatif quand je dis ça, mais qui s'opposera du coup à l'exécution. Et c'est vraiment pas de manière négative, mais quelqu'un voilà, qui pourra challenger un product manager, un product designer, qui, en fait, où il n'y a rien et tout est à construire. C'est vrai, quand tu viens du copywriting, souvent tu as ton brief, c'est déjà hyper clair et tu es OK, je sais où je vais. Là, on a quand même voilà, une idée de la problématique, bien sûr, qu'on veut résoudre, on a une idée des solutions, mais reste que tout est à construire. Ça va être bah, forcément donc une appétence aussi pour le design. Voilà, pouvoir réfléchir du coup à comment je construis ma page, donc comment je construis mon information, comment je choisis du coup le meilleur composant pour faire passer du coup telle ou telle information. Et aussi donc encore une fois, ça s'inscrit du coup dans notre culture, mais quelqu'un aussi qui est prêt à être challengé et à recevoir du feedback. Alors ça ne veut pas dire que du coup ça va être douloureux tous les jours, mais je pense qu'on est tous un peu quand on travaille dans le contenu, on est tous assez sensibles avec nos mots. C'est un pattern que je vois beaucoup chez les gens qui écrivent et avoir aussi cette capacité du coup à prendre du recul, à écouter aussi le feedback. Et ça rejoint un autre point aussi, bah, du coup, rationaliser ses choix. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment souvent dans le contenu aussi cette partie très créative, du coup, notamment dans le copywriting. Et en fait, côté UX writing, la part de créativité, elle est quand même assez restreinte. Alors, en fait, il faut que ce soit fonctionnel, faut que ce soit clair, faut que ce soit très concis. Et du coup, chaque mot à son importance et chaque mot, tu dois pouvoir le justifier en fait et te dire non mais j'ai pris celui-ci parce que pour x y raison. Et donc en fait on va chercher donc voilà plus ce type de profil et après par contre on a vraiment de tout dans l'équipe de tout background et on a beaucoup donc de gens qui viennent du copywriting. Je viens moi-même du copywriting ou de la traduction. On a des gens qui viennent de la localisation aussi. C'est vraiment de manière générale de bons profils. Et en fait, on va pas se bloquer non plus uniquement à ton profil LinkedIn ou à ton CV. Voilà, on va essayer de repérer deux trois points clés, effectivement, de est-ce que tu as quand même déjà collaboré avec des product designers, est-ce que tu as déjà quand même une compréhension du produit, de comment ça fonctionne, et après ça va se jouer du coup lors des entretiens.
On va en parler, mais je trouve que dans la description que tu donnes finalement du poste que tu recherches, c'est exactement la même description qu'un product designer.
C'est exactement ça.
Savoir ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, pas partir dans tous les sens.
C'est exactement ça en vrai.
Super. Tu parles des entretiens. Moi, il y a un truc qui m'intéresse le plus, c'est comment tu testes les compétences en écriture d'un candidat. Est-ce que vous faites, je sais pas, une étude de cas où tu dois écrire des choses. Comment ça se teste? Parce que chacun a sa façon d'écrire, chacun a sa façon de faire. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un peu les affinités de chacun. Comment tu testes ça?
Effectivement, on fait passer un test chez Conto. En fait, du coup, le procès de recrutement, il y aura un premier entretien avec une RH, ensuite, du coup, avec son ou sa future, non, ça, puisqu'nous ne sommes que des filles au leadership UX writing, mais donc sa future manager. Et ensuite, on passe, du coup, sur un skill test. Et c'est un de nos flows, en fait, dans l'application. Donc, la création d'une carte. Et en fait, on a un use case. Je suis un CEO et je commande une carte Conto pour un de mes employés. Et donc, on a voilà, tous les écrans de... On a un peu réduit le flow, mais on a du coup des écrans avec le but de chaque écran. Et bon, du lorem ipsum du coup dedans, c'est pas la peut-être la manière idéale de le faire, mais ça nous permet effectivement de voir plus la réflexion qu'il y a derrière, la capacité du coup à faire aussi des suppositions, de se dire ok, ça fonctionne, ça fonctionnerait pas, à faire des choix, à te dire ok, je suis déjà vachement framée parce que le design est là, mais qu'est-ce que moi j'en ferais, aussi de voir à quel point du coup les candidats peuvent challenger ça et se dire ok, Conto a fait ça, mais en fait moi j'aurais pas du tout fait comme ça, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc ça va être vraiment voir les modèles, en fait, sur plus des modèles. On va vraiment voir qu'est-ce qu'il y a derrière, du coup, effectivement, en termes de réflexion, comment ils abordent chaque composant, du coup, un titre, un sous-titre, un bouton. Et ensuite, on a bien sûr un débrief, du coup, avec le candidat. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un voice-over, de vraiment comprendre les choix, de challenger comme on le ferait en interne. Et c'est vraiment moi, j'adore ce moment, c'est vraiment une discussion ouverte, mais parce que c'est pour voir aussi, est-ce que ça fitterait dans la manière dont on travaille? Et surtout, parce qu'on va pas juste s'arrêter à ok, t'as écrit ça, mais c'est tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ce choix? Et des fois, ça peut être une question vraiment genre pourquoi t'as choisi ce mot? Pourquoi t'as choisi ce mot? Et des fois, ça va être de manière plus générale. Comment est-ce que tu as abordé du coup cet écran? Qu'est-ce que tu en as compris? Et après, on le dit aussi à chaque candidat, bien sûr, de c'est pas comme ça qu'un UX writer travaille. Et on le sait. Tout seul chez toi sans parler à personne, mais c'est aussi voir du coup les questions qui se poseraient et que potentiellement du coup ce candidat poserait à un product designer ou un product manager s'il était à ses côtés.
Tu conseillerais de faire exactement la même chose aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient recruter leur premier UX writer?
De faire passer un skill test, tu veux dire?
De faire passer un skill test et puis de tester certaines compétences précises.
Je pense que moi, pour moi, c'est vraiment un bon moyen. Je sais qu'il y a un peu les deux écoles aussi de est-ce qu'on fait passer des tests ou pas de tests. Je trouve qu'en écriture, c'est compliqué de faire cet exercice en live, voire impossible. Il y a aussi quand même une réflexion. Il y a justement, on pousse les gens à faire de la recherche. Donc en fait, ils peuvent pas te la faire en direct lors d'un entretien. Pour moi, ça permet d'une, effectivement, quand même de tester la partie écriture, parce que reste que derrière, il faut bien écrire, sans faute, que ce soit correct, le message soit vraiment très clair. Mais ça permet surtout de voir, effectivement, la réflexion qu'il pourrait y avoir derrière. Et ça, t'as besoin de le faire potentiellement, à tête reposée, de faire, et en fait, juste vraiment, effectivement, de faire tes recherches, quoi. Et nous, les candidats, nous présentent vraiment ça. Donc, oui, si on veut vraiment recruter un UX writer, le portfolio peut être un bon indicateur au début, et encore, t'as pas de voice-over, c'est difficile de voir comment, dans quel cadre ça a été fait, quelle collaboration cette personne a eu avec son ou sa product designer ou product manager. Je pense que ça peut être un bon indicateur. Il y a pour moi par contre un suivi derrière avec un débrief et vraiment une conversation, parce que juste avoir le skill test et te dire oui ou non, j'aime ou j'aime pas, c'est pas intéressant.
Comme quand tu fais du design.
Clairement. Mais du coup, nous, dans notre cas, on serait vraiment basé que sur la partie writing et non pas UX, et tu comprendrais pas du coup la réflexion qu'il y a pu avoir derrière, qui ont pu mener à ces choix.
Totalement. J'ai une dernière question pour les profils du UX writer. Moi, je le constate autour de moi, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce métier-là et donc qui cherchent plus ou moins à se reconvertir. Donc, tu as déjà parlé des gens qui travaillent dans l'écriture, dans la traduction, dans bref, tous ces métiers-là. Et donc, c'est assez simple de faire le pont puisque tu écris déjà. Moi, par exemple, je travaille avec Mathilde, qui écoute peut-être ce podcast aujourd'hui, qui était avant maîtresse d'école et qui est devenue UX writer.
Génial.
Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas du tout dans le métier et qui veulent devenir UX writer?
En vrai, tous ceux que j'ai donnés avant, et il faut quand même avoir ce goût, enfin, il faut quand même savoir écrire. Mmh. Parce que c'est une partie du métier, mais en fait, tous ceux que je donnais avant, vraiment cette appétence pour le design, pour la conception. Mais on a, par exemple, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais par exemple, dans l'équipe, quelqu'un qui était au service client d'une boîte de luxe. Et en fait, il a aussi l'une des qualités les plus importantes, du coup, que tu peux avoir aussi en tant que UX writer, c'est l'empathie. Et en fait, t'es au contact de tes clients tous les jours quand tu travailles du coup au service client. T'apprends à gérer des situations difficiles, t'apprends à communiquer avec eux, à choisir du coup le bon ton au bon moment. Et Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont il se sert au quotidien, du coup, en tant que UX writer. Mais il y avait déjà quand même cette capacité à écrire. On a quelqu'un aussi qui vient, qui était dev avant, qui était du coup dans plus vraiment la partie tech, mais il sait du coup comment fonctionne le produit, comment du coup le construire aussi et le développer. Donc il y a une vraie compréhension des use cases. C'est ça que j'ai pas beaucoup parlé encore des devs, mais c'est aussi nos alliés. Vraiment, on travaille énormément avec eux en tant que UX writer, comprendre ensuite en fait, enfin justement nous ce que on est en train de penser d'un point de vue contenu, en fait est-ce que c'est vraiment possible de le faire vous derrière, mais en fait voilà, on a vraiment tout. Je pense que il faut pas vraiment se bloquer et se framer tout seul de ah ben non, je viens pas du tout de ce milieu là donc je peux pas devenir UX writer. Si tu sais écrire, si tu as toutes les qualités dont on a parlé, en fait, et toute cette appétence, en tout cas, dont on a parlé un petit peu avant, lance-toi. Rencontre des gens, parle aux gens, lis des livres aussi. Maintenant, il y a plein de UX Writing Hub, par exemple, font des challenges aussi où tu peux, tu as des use cases, ça te pousse du coup à la réflexion, à qu'est-ce que moi je ferais du coup dans ce cas-là. Donc, entre guillemets, entraîne-toi.
Mais pour les gens du coup qui, même s'ils ont l'appétence d'écrire et que ça leur plaît, comment tu... Est-ce que tu leur conseillerais quand même de faire, je sais pas moi, des espèces de case study un peu faux pour montrer un peu comment ils écrivent quand même? Parce que si tu reçois un CV de quelqu'un qui a jamais fait UX writing et qui te dit « j'adore écrire »,
Non, je comprends. Mais justement, typiquement, ce type de challenge, comme ce que va faire l'UX Writing Hub, j'ai déjà vu effectivement des portfolios du coup d'UX Writer en reconversion qui avaient pris du coup une application, je te dis n'importe quoi, mais Airbnb, du coup le register, et qui se sont dit « Ok, voici les améliorations que moi je pourrais faire ». Et ça peut être effectivement un très bon moyen aussi du coup de prendre un produit existant et les améliorations toi derrière que tu pourrais proposer, que toi tu challengerais et comment toi t'aurais fait différemment. Donc montrer effectivement, je pense avoir quand même un support visuel du coup pour montrer ça, comme tu dis effectivement, j'adore écrire, je sais écrire, montre-moi. Mais c'est vraiment plus la partie réflexion, et donc dans ces cas-là de prendre de l'existant, de le refaire, les challenges. Maintenant il y a quand même pas mal de bootcamp aussi qui sont faits, du coup de workshop. Content Design France aussi propose vraiment beaucoup de talk, ça te permet du coup de rencontrer des gens aussi qui potentiellement eux pourraient t'aiguiller aussi sur comment faire au mieux et quels exercices ils pourraient proposer. Mais il y a vraiment, enfin moi quand j'ai commencé du coup il y a trois ans et demi du coup presque quatre pour faire un peu le passage copywriting à UX writing, j'avais fait du coup une formation avec Live Mentor du coup qui était très axée copywriting, mais ça me permettait pareil d'avoir des bases. J'avais fait du coup tout ce qui était UX writing hub, les challenges qui proposaient sur les différents groupes aussi, certains partagent pas mal de choses, et en fait sinon après ça a été de rencontrer des gens, et ça m'a permis d'avoir du coup un peu ce support visuel, même si effectivement il était pas du tout, pas aussi riche qu'il peut l'être aujourd'hui.
Ok, mais donc faut mettre le pied à l'étrier et y aller, quoi.
Ouais, je pense, et surtout se lancer en fait. Si vraiment t'en as envie, focus là-dessus, et c'est des changements de carrière, et en fait il y a encore beaucoup de place à prendre côté UX writing, donc faut pas hésiter.
Ça marche. Tu le sais sûrement, si je t'ai contacté pour qu'on enregistre cet épisode, c'est parce que Félix, le poutre de Lydia, est passé dans un épisode, et à un moment on parle du X-Writing. Lui, il a une X-Writer dans son équipe, et à un moment il parle de Conto, et donc on parle de cette équipe de 20 personnes, qui est probablement l'équipe du X-Writer la plus grosse en France.
Oui. Ouais, non, ça, en France, c'est sûr.
Ouais, alors du coup, j'ai une question un peu directe, c'est pourquoi cette équipe, elle est autant staffée?
Et pourquoi elle ne le serait pas?
Mais je ne sais pas, mais en tout cas, tu vois, aujourd'hui, on va creuser un peu, mais c'est juste pour déclencher la suite de la conversation. Ouais, mais aujourd'hui, vous êtes 20, ça me paraît énorme, parce que déjà, des équipes où il y a 20 designers, product designers, il n'y en a pas beaucoup. Alors en plus, UX writer, c'est différent. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'équipe, elle est organisée comment?
Ok. Alors, pour répondre, parce que c'est vrai que pour répondre vraiment à ta première question, en fait, elle est aussi grosse parce que aussi grande. Parce qu'en fait, on a aussi suivi le scale Conto, et en fait, l'équipe produit a continué à. En fait, donc l'UX Writing fait partie du design studio qui lui-même fait partie du produit. Et en fait, à partir du moment où on continue à recruter côté product management et côté product design, on continue à recruter côté UX Writing. Chez Conto, l'équipe produit, on est 150. À peu près, il y a aussi product marketing management. Voilà, c'est aussi pour remettre en perspective. Ouais. Effectivement, 20 UX Writers, c'est énorme. Par rapport à d'autres boîtes et encore par rapport à certaines, c'est presque dérisoire, mais très fière de cette équipe de 20. Mais voilà, pour remettre aussi les choses en perspective, on est, je pense qu'il y a à peu près une quarantaine de product designers, presque 50 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça remet vraiment aussi les choses en perspective.
Tu vois, je me permets de te couper, mais il y a quelques temps, j'avais fait un épisode chez Doctolib. Ils étaient 20 designers, il y avait 2 ou 3 UX writers. Là, vous êtes un UX writer pour 2 designers.
Ouais, parce que ça nous permet du coup de vraiment être impliqués au meilleur moment. Et comme je te disais, on tâtonne encore un petit peu parce que bah, forcément, plus ça grossit, plus on se demande du coup quand est-ce qu'intervenir selon aussi bah, la fonctionnalité, l'improvement potentiellement sur lequel on peut travailler. Mais en fait, ça permet vraiment d'avoir des binômes et du coup de travailler vraiment main dans la main et de tout concevoir du coup ensemble en étant impliqué vraiment au bon moment. Et surtout, voilà, on a un concept aussi chez Conto qui est qu'on appelle donc le One Piece Flow, et c'est travailler du coup sur une chose à la fois avant de passer à une autre. Je pense que
j'ai
rencontré Julien, donc potentiellement.
Et même en préparant cette émission, okay, j'ai écouté pas mal de TED Talks et je vais en parler justement après. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, sur ces 20 personnes, comment est organisée l'équipe? Parce qu'il me semble que vous êtes 3 leads du UX Writer. J'imagine que l'équipe est au moins séparée en 3. Comment ça s'organise?
Exactement. Donc, nous, on est directement donc, sous le design director. Et donc, on est effectivement 3 leads. Moi-même, et j'ai la chance de travailler avec Fiorella et Kate qui nous ont rejoints assez récemment. Et en fait, chaque UX writer chez Conto est assigné à une CFT, donc une cross-functional team, où en fait on a toutes les expertises dont on a besoin selon nous du coup pour construire un bon produit et une bonne expérience utilisateur. Donc dans chaque CFT, tu auras un product manager, un product designer, un UX writer, un product marketing manager et les techs ensuite. Quand je dis un, potentiellement selon la complexité et la grosseur de la CFT, tu peux en avoir un ou plusieurs. Et également, chaque UX writer est aussi assigné à un marché. Notre produit, du coup, est dispo en 5 langues. C'est vrai que je l'ai pas mentionné avant, mais du coup, on est présent sur le marché français, espagnol, italien, allemand, et du coup, on est également l'app est également disponible en anglais. Donc voilà, chaque UX writer travaillera donc d'abord en anglais, mais ensuite localisera du coup pour son marché. Et en fait, Kate, Fiorella et moi, on est en charge chacune de CFT bien spécifiques. Et moi, dans mon cas, par exemple, je suis focus sur la CFT onboarding, donc vraiment le SaaS entre le website et l'application, donc vraiment toute la partie register. Focus sur le marché italien, toutes les applications, toutes les fonctionnalités pardon qu'on peut développer pour ce marché et sur les sujets pricing.
Ok, très bien. C'est assez original cette séparation en 3 leads.
Ouais.
Sans avoir quelqu'un au-dessus qui, enfin, vous êtes directement chapeauté par le head of design, design director.
Exactement.
Pardon. Oui, le head of design maintenant
c'est Julien.
C'est Julien. Je veux.
Head of product design du coup.
Je ne veux pas faire de bêtises. Oh là là, il va en vouloir. C'est original de pas avoir quelqu'un par exemple head of UX writing au-dessus. Il y a une raison à ça ou?
Potentiellement, c'est le prochain move qui devrait se passer pour l'équipe. Maintenant, comme je disais, c'est que Kate et Fiorella nous ont rejoints assez récemment. Donc en vrai, cette équipe a énormément grossi il y a un an, en février dernier. Et donc où on avait encore aucun lead, c'était donc Mathieu qui à l'époque donc était head of design qui gérait vraiment en direct cette équipe. Je suis ensuite passée lead moi il y a bientôt un an. Kate nous a rejoint il me semble l'été dernier, Fiorella en octobre. Et donc en fait on est aussi encore en train de structurer cette équipe avec les trois leads et potentiellement bien sûr après l'idée ce serait d'avoir idéalement du coup un head of UX writing.
Okay. En préparant l'émission, j'ai découvert que vous n'aviez pas que des UX writers dans l'équipe. J'ai entendu parler de Content Ops. Du coup, avant de parler de ce rôle-là, question plus générale, quel rôle vous avez dans l'équipe en dehors des leads et des UX writers?
dans l'équipe UX Writing ou de manière générale dans
le
studio?
Non, dans l'équipe UX Writing.
Ok, donc non, il y a vraiment donc lead, UX Writer, après du coup avec différents niveaux. Donc voilà, il y en a qui sont plus seniors. On a la chance aussi d'avoir donc aujourd'hui 3 expertes, une qui vient récemment de nous rejoindre. Mais donc on a 3 experts, donc qui sont vraiment beaucoup plus avancés. En fait, on a 2 choix de carrière aussi chez Conto. Quand tu arrives à une certaine seniorité, c'est effectivement soit lead, et donc vraiment tu te focuses sur le management, soit plutôt sur l'expertise, et aussi où tu fais pas mal de training avec l'équipe. C'est vraiment des alliés du coup au quotidien des leads. Et parmi donc ces expertes, on a Sylvia, donc qui travaille en tant que content ops, et en fait qui gère vraiment toute la partie tooling pour l'UX Writer. Donc là, elle est focus actuellement sur notre content design system. Donc on a un design system où on a déjà inclus également la brand. Et là, on est en train de travailler du coup sur le content design system. On en avait un, mais qui était justement hors design system, du coup, qui n'avait pas le même niveau de granularité qu'on pouvait avoir. Donc voilà, Sylvia est vraiment focus là-dessus avec l'équipe, bien sûr. Et après, ça va être effectivement nos outils aussi de localisation, comment va gérer toute cette partie-là, et la partie un peu plus du coup technique, l'aspect vraiment plus technique que peut demander cette expertise.
Ok, très bien. C'est bien, tu as répondu à plein de questions en même temps, c'est chouette.
Parfait.
Est-ce qu'on se concentrerait pas maintenant sur la façon dont travaille ton équipe, ou enfin travaille les UX writers chez Conto? T'en as un peu parlé, vous bossez que sur un projet à la fois. Comment concrètement, peut-être à l'aide d'un exemple, comment un UX writer travaille aujourd'hui avec un product manager, avec des devs, avec des product designers, etc.?
Ouais, alors je vais prendre un exemple. En fait, on a plusieurs phases du coup de conception. Donc la value analysis, qui est vraiment plus la partie recherche, la value engineering, où du coup on va en mode entonnoir du coup converger vers une solution et la mapper et voir avec justement l'équipe tech qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Ensuite, on a la phase de spécification. Nous, notre côté, la phase aussi également de localisation, et ensuite delivery. Un UX writer, selon la fonctionnalité, peut potentiellement être impliqué, donc vraiment dès le début, en phase de recherche, parce que il va vraiment participer activement avec un product manager, avec un product designer à définir du coup vraiment la solution. Et donc nous, on va faire. Il y aura également dans cette phase-là, pardon, j'ai oublié de le mentionner, mais product marketing manager. Et en fait, chacun. On travaille tous du coup sur disons la même fonctionnalité, mais en fait on va regarder les choses différemment. Donc nous, on va effectivement beaucoup se focus sur la recherche linguistique, c'est quoi le champ lexical, ce sera quoi la taxonomie qu'on va avoir ici, est-ce que si c'est une nouvelle section dans l'application, comment on l'appelle, donc vraiment un benchmark aussi d'un point de vue contenu, c'est quoi la voice of customer, comment nos utilisateurs en parlent, quels sont les mots qu'ils emploient pour être sûr aussi d'être dans leur monde et de parler exactement le même langage qu'eux. Donc on va vraiment pousser toute cette recherche. Et
alors, je te coupe, vu que tu en parles tout de suite, c'est une des questions que j'ai sur la user research. Comment ça se passe du coup, la user research, enfin, ou la research comme ça pour les UX writers?
Ouais, je sais que tu avais beaucoup parlé de ce qu'on appelle de user researcher chez Conto, mais en fait chacun du coup est honneur de la recherche, parce qu'en fait à partir du moment où tu travailles du coup sur le produit et tu conçois une expérience utilisateur, t'as besoin du coup de faire cette recherche, et donc ça, c'est un peu le parti pris, mais dans le sens où c'est pas délégué, c'est vraiment aux personnes qui vont concevoir. Et donc oui, nous on va faire cette recherche. Ça peut passer par du coup des user interviews, des user tests aussi, ça, l'analyse de tickets CS. Je pense qu'on minimise vraiment ça, alors que y a du pétrole là-dedans, de voir du coup les frictions qu'ils peuvent avoir. Après, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué d'un point de vue UX writing, puisque personne ne va jamais écrire un ticket pour dire ce mot était pas hyper clair, je l'ai pas très très bien compris. Mais du coup, ça va être d'analyser effectivement la data qu'on a, en fait, comment par exemple, si dans le cadre d'une amélioration de fonctionnalité, de ok, qu'est-ce qui a pas fonctionné, où est-ce qu'on a vu qu'ils avaient droppé, est-ce que vraiment finalement ils ont pas cliqué ici, donc potentiellement c'est peut-être que quelque chose ne fonctionne pas. Et encore, je trouve que c'est encore très dur effectivement l'UX writing d'analyser le succès du coup que la part, parce qu'en fait ça fonctionne pas tout seul. ça fonctionne avec design. Et du coup, c'est assez compliqué. Mais en fait, il y aura vraiment toute cette partie recherche qu'on va faire, et vraiment d'un point de vue wording. Et ça peut passer donc par ce qu'on a en existant, par le content design system aussi, nos glossaires, en fait, tous les outils qu'on peut aussi avoir en interne. Et en fait, on a vraiment une approche très systémique. Ça va être... c'est pas se dire, OK, comme on a fait ça sur la dernière fonctionnalité, il faut qu'on le fasse exactement pareil sur celle-ci, parce que peut-être que ça n'a pas de sens à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment analyser un peu tous les outils que tu as et savoir quand être dans le système et quand en sortir. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question.
Si, mais du coup, en fait, vous faites de la user research.
On fait de la user research. Mais en fait, vraiment, chaque personne dans l'équipe produit, du coup, est... user researcher, vraiment, que ce soit le PMM, le product design ou le product management et l'UX writer.
Très bien. Et du coup, je t'ai coupé en plein milieu de ton explication du process.
Pas de souci. Donc voilà, on a vraiment toute cette phase de recherche. Et ensuite, donc, quand on passe en phase de conception, c'est là où vraiment le duo product design et UX writer, c'est là où à ton partner in crime, en fait. Il travaille vraiment main dans la main. Il peut avoir des sessions, mais de plusieurs heures de workshop. Mais c'est OK. Ça, c'est ce qu'on veut résoudre. C'est le problème, du coup, qu'on a actuellement. OK, on teste. On fait un catalogue de solutions ensemble et on teste tout. Aussi bien d'un point de vue vraiment design visuel que d'un point de vue contenu. Et ça va être vraiment mapper le parcours utilisateur du début à la fin, et en se disant, OK, avec cette solution, j'arriverai à résoudre, du coup, le problème que j'avais initialement. Et en rationalisant, du coup, tout ça, en se disant, OK, ça, c'est une bonne solution parce que ceci, parce que cela, ou ça, on pense qu'elle est moins bonne. Il y a aussi beaucoup de workshops à ce moment-là, du coup, avec les techs. C'est là où on commence vraiment à impliquer les techs dans la conception de, OK, nous, on aimerait bien faire ça. À quel point c'est faisable. Nous, d'un point de vue contenu, c'est là aussi où c'est hyper clé pour nous, justement, de à quel point, par exemple, on peut personnaliser ça. Est-ce que là, c'est possible d'avoir une variable? Est-ce que là, c'est parce que c'est différents forfaits, parce que ce flow s'adresse à... J'ai un rôle manager ou j'ai un rôle employé, donc qui vont pas avoir exactement la même chose. Si, en termes de message d'erreur, est-ce que on peut avoir un message d'erreur pour chaque cas? Est-ce que ce sera un petit peu plus générique, pluriel, singulier, masculin, féminin? Comment on le gère. Et donc voilà, on a tous ces workshops-là avec eux. Et donc il y a vraiment la phase de conception. On a ce qu'on appelle un solution challenge. Et en fait, où, du coup, on va présenter donc la solution à d'autres membres de l'équipe, prendre le feedback. Comme je disais, on a vraiment une culture du feedback et du challenge chez Conto. Potentiellement itérer. Et quand on s'assure que OK, c'est bien faisable et qu'on a vraiment tout, on passe en phase de spec. Et nous, d'un point de vue contenu, UX writing, pardon, on va, pendant la phase de conception, ce qu'on appelle un peu le best effort copy en interne. Et ça va être vraiment plus l'intention, en fait, plus le message qu'il y a derrière, de qu'est-ce que je veux dire à mon utilisateur. Sans que ce soit final, sans que ce soit au mot près, à la virgule près, mais c'est plus OK, là sur cet écran, on veut qu'il fasse ça. Voici la hiérarchie d'informations et voici le message que je lui dirai. Et ensuite, quand on rentre du coup en phase, parce qu'on n'a pas encore les designs finaux non plus à ce niveau-là, et on travaille vraiment sur ce qu'on appelle du coup la master, donc en anglais. Parce que Conto est si international maintenant que c'est la langue qui nous rassemble tous.
Mais en fait, de ça après.
Ouais, on travaille du coup donc en anglais, mais une fois que les designs sont vraiment finaux et qu'on est sûr que du coup, entre guillemets, ça bougera plus pour éviter d'avoir le fameux rework dont je parlais avant. Et là, ce sera vraiment plus s'assurer du coup qu'on a bien le bon tone of voice, que si on a besoin d'être cohérent avec une autre section de l'application ou avec la fonctionnalité précédente, que ce soit le cas, être capable du coup de rationaliser tes choix aussi d'un point de vue contenu. On a actuellement ce qu'on appelle nous un UX Writing Challenge, pareil, encore une fois, cette culture du challenge où du coup l'UX Writer qui travaille sur sa fonctionnalité présente à l'équipe. Et là, ça va être, on va vraiment se focus sur le contenu. Aussi, c'est là où on prend vraiment en compte la partie localisation derrière, parce que effectivement, on écrit en anglais. L'anglais, c'est beaucoup plus court. Ça, je sais pas si c'est parce qu'on a nos biais culturels, mais ça sonne toujours beaucoup plus sexy que dans n'importe quelle autre langue. Et en fait, après, tu te rends compte que quand tu localises en français, en allemand, en italien ou en espagnol, t'es « Ah ouais !» beaucoup moins, c'est moins bien en fait. Mais alors que non, le message c'est exactement le même. Mais voilà, tenir aussi compte de ces contraintes là, de s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec un sous-titre de 6 lignes dans une langue. Donc voilà, c'est vraiment toutes les questions qu'on se pose à ce moment-là. Et ensuite, on revient à un autre duo UX Writer Tech. On a vraiment un sync pour savoir du coup comment on va gérer. Maintenant qu'en fait on a le contenu, maintenant qu'on a chacun de nos composants, j'ai mon titre, mon sous-titre, mes boutons, j'ai tout mon flow de OK, comment on fait en sorte que ce soit de vous passer du coup le flambeau et que derrière vous puissiez coder tout ça. Nous, l'outil qu'on utilise, c'est Localize, donc aussi bien voilà pour localiser le contenu qu'ensuite pour les techs. Et en fait, on a un sync du coup justement pour savoir comment gérer tout ça. Et ensuite, c'est nous qui nous occupons de toute cette partie sur Localize, d'ajouter du coup c'est de créer ces clés, de les ajouter, et ensuite l'équipe localisera directement sur l'outil. On aura ensuite une QA pour s'assurer voilà que on parle de système de branche, pour s'assurer que la branche elle est parfaite, elle est OK, c'est les devs auront tout ce dont ils ont besoin pour travailler correctement. Et en fait voilà, si on prend vraiment une chaîne de prod, ensuite ça passe en delivery côté tech.
Super. Il y a plein de points sur lesquels je vais revenir parce que ça m'intéresse vachement. Il y a juste une petite finalité que je vais te poser là tout de suite. C'est une fois que vous avez mis en place tout ça, est-ce que c'est aussi les UX writers qui vont prendre en compte un petit peu toute la partie, on va dire, marketing, c'est-à-dire les emails, la FAQ, les éléments de langage pour la communication, ou c'est plus les product marketing managers qui sont là et qui vont en fait prendre tous ces éléments et les adapter version marketing?
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que je l'ai pas beaucoup mentionné, mais on a une très belle équipe aussi de Product Marketing Management chez Conto. Je pense qu'ils sont presque une quinzaine aussi. Je vais arrêter de dire des chiffres parce que je vois que tu hallucines à chacun.
Ouais.
Mais je comprends. Mais encore une fois, voilà, pour remettre les choses en perspective, mais c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup avec cette équipe-là, comme je disais, notamment dans la partie en amont, donc vraiment la partie recherche, et en fait s'assurer que la manière dont on va en parler dans le produit, est-ce que c'est OK pour eux aussi derrière pour le mettre sur un blog post, pour le mettre sur une landing page, ou en tout cas travailler avec d'autres équipes, vraiment la partie vraiment marketing. Donc ouais, il y a un vrai alignement là-dessus sur le champ lexical, sur les mots qu'on va utiliser. Et eux vont effectivement prendre ce qu'il y a dans le produit, parce qu'in fine, c'est ce que l'utilisateur aura entre ses mains et verra certainement le plus, s'assurer du coup que ça fonctionne, que c'est cohérent, par contre, que la manière dont on en parle, c'est aussi bien dans le produit qu'à l'extérieur, c'est exactement la même. Et vont faire le lien avec les différentes équipes, effectivement avec le service client pour les foires aux questions. Voilà, c'est ça le parcours qu'ils auront dans l'application. Quand on rédige la foire aux questions, qu'on s'assure que voilà, on n'est pas raté les étapes, qu'effectivement dans les emails marketing, ceux qui vont s'en occuper, blog post aussi pour parler de cette fonctionnalité, des use cases, c'est eux qui vont s'en occuper, mais vraiment basé sur ce qu'on a fait. Et il y a des communications par contre et de plus en plus on a ça sur lesquelles on travaille vraiment main dans la main. Par exemple, on va avoir parce qu'en fait elles sont dans l'application, donc je sais pas, par exemple une push notification dans l'application pour parler d'une nouvelle fonctionnalité ou présenter un use case du coup pour driver un peu de l'adoption. C'est vraiment un jeu d'équilibre entre les deux expertises, s'assurer que voilà, on trouve vraiment le juste milieu entre être dans le monde de l'utilisateur et en même temps avoir ce côté un peu plus catchy du marketing, mais en même temps on est dans l'application, donc s'assurer que le tone of voice, voilà, mettre le curseur au bon endroit. Donc ouais, c'est aussi une vraie collaboration qu'on a avec eux.
Ok, super intéressant. Si on revient sur ton équipe, tout à l'heure tu l'as dit, chaque UX writer se concentre uniquement sur un sujet à la fois.
Oui.
Est-ce que ça consiste à rester plus ou moins focalisé tout le temps sur la même partie? Je ne sais pas, si tu travailles sur l'onboarding, tu travailleras tout le temps sur l'onboarding. Et du coup, est-ce que, si oui, est-ce que ça n'enferme pas trop les UX writers sur un sujet spécifique de l'application?
Oui, non, c'est hyper intéressant comme question. Alors, effectivement, ils sont assignés à des CFT. Maintenant, ce n'est pas du tout figé. Parce que tu peux avoir envie de changer, tu peux avoir envie d'avoir autre chose. L'avantage, quand même, c'est que ça te permet aussi de devenir expert du coup sur un sujet sur une problématique utilisateur. Et pareil, parce que chaque product designer, chaque product manager, chaque PMM et chaque tech est aussi assigné à une CFT. Donc en fait, c'est vrai que tu retrouves aussi un peu toujours les mêmes personnes. Ça te permet de la collaboration est encore plus fluide. Tu apprends aussi vraiment avec ton équipe. Donc ça a vraiment ses avantages. Maintenant, comme je dis, c'est pas du tout figé. Donc c'est juste une conversation avec ta manager de « Ok, j'ai envie de voir autre chose. » Et après, c'est vrai qu'on essaye au maximum quand même de, par exemple, côté onboarding, on va avoir plusieurs sous-sujets, disons. Et par exemple, bah, voilà, récemment, l'été dernier, on s'est affilié à Penta, donc on doit racheter Penta. Et on est en train de travailler du coup sur toute la migration des utilisateurs Penta. Donc voilà, on a tout un pipe qui est dédié à ça. Et donc, effectivement, j'ai quelqu'un de mon équipe qui est vraiment spécialisé sur ces sujets. J'ai quelqu'un d'autre qui sera spécialisé sur les sujets un petit peu plus légaux, disons, s'assurer que voilà, on respecte bien tous les critères pour d'onboarding sur chacun des pays, parce que la législation est différente. Donc voilà, il y a des spécialités. Maintenant, c'est pas du tout figé. Et en fait, selon le besoin, selon aussi l'appétence, moi, à chaque fois, c'est quelque chose dont je discute avec mon équipe de ce sujet, est-ce que voilà, ça te dit aussi, et on peut avoir selon le besoin. Là, par exemple, j'ai quelqu'un donc de la CFT facturation. J'avais un besoin dans mon équipe côté pricing et qui est venu m'aider aussi. Mais c'est vrai que ça te permet quand même d'avoir un certain savoir, une certaine expertise qui peut servir du coup au quotidien. Maintenant, on comme je disais, dans la manière dont on travaille, vu qu'on rationalise tout, on a aussi une culture de l'écrit de manière générale, où du coup tu trouves pourquoi tous les choix ont été faits. Donc en fait, même demain, si je vais travailler sur une autre CFT, je saurai pourquoi du coup on en est là aujourd'hui, pourquoi ces choix ont été faits. Donc il y a ce côté, je le vois pas comme être enfermé, mais plus comme être spécialisé.
D'accord.
En sachant que à tout moment tu peux aller voir ailleurs.
Ouais. Et du coup, tu as commencé un peu à y répondre, mais la raison pour laquelle je te posais cette question, c'est pour la question d'après, c'est du coup, comment circule en fait un peu, comment ça circule entre chaque personne de ton équipe, d'un côté l'information, les choix qui ont été faits, mais aussi s'assurer que tout le monde est aligné et pas qu'il y ait une équipe qui décide d'utiliser, je sais pas, un mot pour, je sais pas, on parlait tout à l'heure de valider, mais que plus loin ça soit accepté alors que ça devrait être validé. Comment c'est fait en fait dans l'équipe pour que tout transite assez facilement et que ça soit clair.
Ouais.
Je vais un poil plus loin, c'est que par exemple pour les designers, tu vois, quand tu vas dire j'utilise un bouton, tu vas dans le design system, tu as un bouton, copier-coller, hop. Est-ce que c'est la même chose pour vous avec le content system où tu te dis j'essaye de valider, voilà le mot que je vais prendre parce que c'est...
C'est exactement ça. Ah. En fait, on va vraiment s'appuyer sur les outils qu'on a.
Ouais.
Donc aussi bien le glossaire que le content design system.
D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux ?
Content design system, on va vraiment le voir d'un point de vue design avec les différents composants, et ça va être plus de comment j'aborde, je sais pas, un titre dans une modale.
Okay.
Alors que glossaire, et encore, tu vois, comme je te disais, on a vraiment une approche très systémique sur tout ce qu'on fait. Mmh. Donc même le glossaire, c'est pas une liste de mots et de utilise ça. Ça va être plus avoir par exemple un objet et les actions qui peuvent se rapporter à cet objet.
D'accord.
Après, localize, par exemple, outil comme je disais de localisation qu'on utilise. Il y a aussi une mémoire de traduction qui peut t'aider. Maintenant, il faut vraiment faire aussi la part des choses entre quand est-ce qu'il faut être cohérent et quand est-ce qu'il ne faut pas l'être. Parce que je pense que c'est un peu des biais qu'on peut avoir en tant que UX writer de « j'ai utilisé ça, je vais l'utiliser partout ».
Mais ouais, mais justement, du coup, comment tu fais pour aussi t'assurer que des fois, tu sors un peu des sentiers battus, mais que l'équipe est au courant et pourquoi ça a été fait, et tu vois que ça... Parce que si tu commences à le faire une fois, deux fois, trois fois, en fait, pourquoi pas le faire tout le temps ?
Ouais. Ça va être les UX Writing Challenge qui vont vraiment nous aider à ça. Il y a toujours une lead ou une experte aussi qui participe à ces challenges, à un certain savoir du coup aussi qui est communiqué. Donc en vrai, il y a toujours, c'est pas du tout des reviews, des validations, c'est vraiment un challenge. Et par contre, voilà, il y a des choses qu'on va pouvoir revoir et se dire là, par contre, fais attention. On a quand même à 20, c'est encore vraiment possible de voir tout ce qui se passe. Et ça va être juste vraiment passer par la communication. On a aussi une channel sur Slack où on communique vraiment beaucoup. Et par contre, quand on va prendre des décisions un peu plus importantes, vraiment qui vont impacter, je sais pas, les standards ou justement comment on aborde telle ou telle chose. On a un point hebdo chaque semaine où déjà d'une, l'équipe présente les différents projets sur lesquels elles ont bossé, les différents apprentissages qu'elles ont eus, les difficultés qu'elles ont rencontrées, les points bloquants qu'elles peuvent encore avoir aujourd'hui. Ou des fois, voilà, justement, des sujets dont on veut discuter, de, en fait, je travaille sur ça actuellement, je suis un petit peu bloquée, comment on le ferait? Mais en fait, il y a vraiment cette culture de poser des questions. Si vous savez pas comment faire quelque chose, si vous comprenez pas quelque chose, si vous avez un doute, ou justement, en fait, j'étais sur l'application, j'ai trouvé ça. Comment je fais un choix ici? Est-ce qu'il y a des trucs que c'est pas la legacy qu'on a depuis un petit moment? Et en fait, ça va être vraiment passé par un travail d'équipe, communication, et en fait les différents rituels qu'on peut avoir nous aident beaucoup aussi sur ça.
Ok, super. Depuis tout à l'heure, je fais exprès d'éviter le sujet des différentes langues qu'il y a sur la plateforme, parce que je sais que c'est toujours un bordel monstre à partir du moment où tu rajoutes une nouvelle langue. Tu l'as dit tout à l'heure, vous écrivez d'abord en anglais. Et donc, du coup, j'imagine que chaque composant et le glossaire est écrit en anglais. Est-ce que vous le distinguez? Enfin, est-ce que vous le... Je n'ai plus le mot qui me vient en tête, mais est-ce que vous en faites un par pays?
Oui.
Pour adapter à chacune des cultures et à chacune des spécificités.
Exactement. Donc, on a un content design system, parce que, comme je te disais, c'est vraiment sur les composants en eux-mêmes. Par contre, on va avoir, du coup, un glossaire par pays,
okay.
Parce que les problématiques sont complètement différentes, l'approche n'est pas la même. Et pareil pour le tone of voice, donc on a vraiment une page, ça c'est côté marketing, mais voilà, on a eu un travail d'équipe avant de mettre en place tout ce tone of voice et que la boîte soit alignée autour, mais on a aussi une page de tone of voice par pays, nos principes et les valeurs restent exactement les mêmes, mais par exemple, voilà, on s'adapte au marché. Sur le marché espagnol, on tutoie nos utilisateurs,
okay.
Pas sur le marché français, parce que la culture et la langue espagnole fait que c'est OK.
Mm.
En France, ta banque ne te tutoie pas. Donc voilà, voilà un exemple un peu bateau, mais donc ouais, c'est vraiment adapté par pays.
OK. Et du coup, comment ça se passe, cette traduction? Parce que j'imagine que chaque UX writer de chez Conto ne maîtrise pas les 5 langues sur le bout des doigts. Donc, comment ça se passe? Parce que est-ce que vous avez des traducteurs spécialisés qui vont faire la traduction, ou c'est chaque UX writer qui a sa langue qui va passer dessus, et donc ça permet de tout voir aussi en même temps?
Ouais, il me semble que justement c'est ce qu'avait mentionné Félix, donc il n'y a pas de traducteur chez Conto, en revanche on gère tout en interne, mais en fait c'est les UX writers qui ont cette double casquette. C'est peut-être, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est effectivement l'un des challenges qu'on peut avoir côté recrutement chez Conto, c'est qu'on cherche pas juste un UX writer, on cherche un UX writer du coup bilingue, qui sache effectivement faire le enfin qui sache faire cette expertise dans les deux langues.
Okay.
Et ce qui est peut sembler évident quand tu dis je parle deux langues, et en fait non, pas du tout, parce que certains par exemple n'ont travaillé qu'en anglais en fait, alors qu'ils sont italiens, ils sont mais en fait demain je me sens incapable de localiser du coup ce produit en italien alors que c'est ma langue, mais que l'approche est différente, parce qu'en fait on parle pas de traduction, on parle vraiment de localisation. Mmh. Et du coup d'adapter vraiment au marché. Ouais. Italien aux problématiques qu'on peut avoir sur la langue. Donc pour répondre à ta question, chaque UX writer en fait est, quand je disais assigné aussi à un pays, c'est que je vais avoir quelqu'un qui va travailler qui va localiser du coup pour le marché allemand. Donc c'est une personne qui est native allemande, qui est bilingue anglais. Pareil pour le marché italien, français et espagnol. Et en fait on a ce qu'on appelle un petit pipe en fait visuel qui nous permet de voir OK. Telle personne a travaillé sur telle fonctionnalité, il va falloir du coup maintenant la localiser. Donc ils ont un peu la double casquette où ils travaillent aussi bien en tant que UX writer dans le sens eux à la conception, et c'est eux qui travaillent sur la master, mais ils vont aussi localiser la master de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est vraiment très clé du coup cette master qu'en amont on enlève tous les challenges qu'on pourrait potentiellement avoir côté localisation. Alors bien sûr, il y a des choix à faire, et parfois on ajuste, mais c'est pour ça qu'on essaie d'avoir la master entre guillemets la plus neutre possible, pour que derrière on se dise OK, c'est presque un no-brainer du coup de localiser.
Et du coup, tout à l'heure, tu en parlais, et c'est un sujet qui revient souvent, c'est quand tu écris en anglais et que tu localises dans n'importe quelle autre langue, ça pète parce que c'est beaucoup plus long. À ce niveau-là, comment vous faites? Vous allez directement sur les maquettes et vous testez pour voir si ça passe? Localize fait un truc automatiquement? Je sais plus, j'ai vu Jean-Marc Denis qui bosse toujours chez Facebook, et qui me disait qu'eux, ils avaient un plugin qui prenait une phrase, qui mettait les mots les plus longs de cette phrase dans chaque langue qui a le mot le plus long, et en fait ils se rendaient compte la phrase impossible pour voir si ça passait ou pas, et comme ça, ça leur permettait de dire ok ou pas. Est-ce que vous faites pareil?
Génial, je veux bien ce plugin, si jamais.
Je crois que c'est en interne qu'ils
l'ont. Ok, mais... ah, bon, ok, mais bon, j'aurais essayé au moins. Bah, en vrai, il y en avait un. On a utilisé pendant un moment, il y a un plugin entre Localize et Figma, mais qui n'était pas optimal, en tout cas pour nos besoins, donc on a arrêté de l'utiliser, mais on avait testé. Effectivement, ça permettait vraiment d'une plateforme à l'autre de pousser vraiment le contenu sur Figma, de voir ce que ça donnait, ou alors de pousser le contenu de Figma sur Localize. Okay. C'était assez génial, mais ça ne répondait pas à tous nos besoins. Donc, on a arrêté de l'utiliser. Ce qu'on va faire, en fait, on va déjà identifier potentiellement ça en UX Writing Challenge. Par exemple, si je vois qu'effectivement déjà en anglais j'ai un sous-titre de 3 lignes, ça va être bon, il va falloir raccourcir, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, et encore peut-être que parfois j'ai besoin de donner toutes ces informations là à ce moment-là, mais on va l'avoir en tête du coup pour la localisation. Sur Localize, tu peux quand même assez facilement voir aussi, souvent si tu vois que par exemple tu vas prendre, si tu vois que ça dépasse vraiment beaucoup de l'anglais, ce qu'ils vont faire les UXateurs, c'est qu'ils vont tester directement sur Figma. C'est ça que je l'ai pas précisé, mais on travaille directement sur Figma. On fait tout sur Figma avec le product designer. Et donc, ouais, on a un UX writing test aussi, du coup, en dossier sur Figma. Et en fait, on va juste copier-coller les écrans sur lesquels on travaille actuellement. Et c'est vraiment un terrain de jeu et on va tout explorer, donc tout tester. Mais chacun le fait de manière autonome. Et en fait, parce que chacun est aussi responsable de la qualité de ce qu'il produit. Et donc, que ce soit la master ou ta localisation, tu dois t'assurer que ce que toi tu fais, ce que toi tu délivres, soit OK. Donc chacun le fera directement. Et ensuite, comme je disais, il y avait quand même une QA là-dessus pour s'assurer que la branche est OK. Donc potentiellement, quelqu'un d'autre pourrait voir OK, je pense que là, ça va être vraiment trop long. Est-ce que tu as bien t'assuré que ça a bien été testé, et potentiellement le faire et fixer avant.
OK, hyper clair, merci. Tu parlais tout à l'heure de l'UX Writing Challenge. Est-ce que vous avez d'autres rituels dans ton équipe pour que tous les UX Writers travaillent entre eux ou même avec des product designers? Enfin, quels sont vos rituels en plus de celui-ci?
Ouais, comme je disais, donc il y a le Solution Challenge où là vraiment on a les différentes expertises, donc vraiment product design et UX Writer. Donc cette UX Writing Challenge, et ensuite ça va vraiment passer par les workshops qu'on va faire du coup en phase de conception, où là en fait on prend les expertises dont on a besoin du coup pour on a cette problématique, enfin on se dit on veut faire cette solution mais on a cette problématique, comment on arrive à la résoudre, du coup on va rassembler potentiellement tech, PMM, PD, UX Writer, enfin vraiment celle dont tu as besoin pour trouver une solution. Et c'est un des plus gros rituels aussi qu'on peut avoir. Sinon, vraiment des rituels un petit peu plus bateaux, mais les points, les weekly, les points hebdomadaires, ça aide aussi énormément. On en a un aussi tous les 15 jours à l'échelle du design studio. Donc c'est cool parce qu'on a vraiment les 4 expertises du design studio, donc brand design, product design, UX writing et design system. C'est vrai qu'on a quelqu'un du coup qui est vraiment dédié au design, 2 personnes maintenant, dédié au design system. Et en fait, on va présenter du coup les différents projets aussi, c'est un rituel qui est...
Et donc aux 80 personnes du studio.
Aux 80 personnes du studio. Ça fait beaucoup de... C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, on était 10 sur ces calls, quoi. 10 ou 12. Et maintenant, on est 80. Et on présente, on choisit les projets où on se dit que ça peut être hyper pertinent, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux autres équipes. Et c'est top, ça permet vraiment de voir sur quoi travaillent les autres. Potentiellement, du coup, tu as aussi des inspis de « Ah ouais, j'ai vu ça la dernière fois. » Donc on a ça, et sinon après moi j'en ai un peu plus aussi à l'échelle de mon équipe. On va se faire un point par exemple mensuel où ça va être l'idée un peu de partager du coup les bonnes pratiques. On va revenir sur 3 questions par exemple de qu'est-ce que ce dont t'es le plus fier ce mois-ci, c'est quoi le challenge que tu as actuellement et que tu n'arrives pas à résoudre, et la troisième ça va être de qu'est-ce que t'as envie d'apprendre pour la suite, ce sur quoi t'as envie de t'améliorer, ce sur quoi tu penses pouvoir le faire. Donc voilà, après c'est qu'on commence à avoir aussi des petits rituels plus à l'échelle des équipes, parce que ça devient aussi un peu plus gros, et je pense que c'est les principaux que je vois.
Ok, super. Et dans ce que tu viens de dire, tu as abordé les 2 derniers sujets dont j'ai envie de parler, c'est le grossissement d'une équipe et comment faire évoluer les gens. Donc on va commencer par le grossissement d'une équipe. Tu étais toute seule, vous êtes passée à 20. En plus, vous étiez 10 dans l'équipe, dans l'équipe design et du coup, vous êtes passée à 80. Est-ce que tu peux un peu me dire sur cette rétrospective des 3 ans, qu'est-ce qui a bien marché et que tu recommanderais de mettre en place pour toutes les personnes qui nous écoutent, et qu'est-ce qui a, à l'inverse, pas marché et que du coup, tu conseillerais de ne pas faire?
Ouais, hyper intéressant, ça me permet de faire effectivement ma petite rétrospective après 3 ans. Je pense que ce qui est clé, c'est se dire que rien n'est figé en fait. Et que moi, je pense que ça a été vraiment le plus gros apprentissage que j'ai eu ces 3 dernières années. Me dire que quelque chose qui fonctionne à un instant T, et ben en fait potentiellement, mais parfois quelques mois après, ça ne fonctionnera plus. Et c'est marrant parce que ça va un peu parfois à l'encontre de ma personnalité où je peux avoir du mal un petit peu à lâcher prise. Et donc j'ai de la chance d'avoir un manager qui me challenge beaucoup sur ça. Et en fait, cette capacité du coup à construire des modèles et à les déconstruire aussi. Okay. Et en fait, c'est vrai que Conto, c'est vraiment ça. Et je pense que de manière générale, une start-up aussi, scale-up, vraiment de se dire, OK, bah, ça fonctionne, c'est nickel. Et en fait, après, de se dire, mais en fait, là, ça fonctionne plus du tout. On a atteint vraiment le stade limite. Et donc, c'est beaucoup ce qui s'est passé chez Conto, côté UX Writing, en tout cas, voilà, quand j'étais toute seule, ça fonctionnait. Ensuite, on a eu 1-2 personnes. En plus, on était au bureau à Paris. Donc, face à face, on documentait pas tout. On prenait les décisions, tu lèves la tête et oh, t'en penses quoi de ça? Ah ouais, super, vas-y, go. Et après, t'as 4-5 personnes, t'es, ah ok, ça marche un petit peu moins pour faire passer l'information. Donc, on va peut-être commencer à documenter. Et après, on a commencé à avoir des gens à l'étranger. On a commencé à passer plus en télétravail. Et du coup, je me rends compte de, ok, en fait, effectivement, il faut commencer à tout écrire, des décisions qui étaient prises sur un coin de table. Maintenant, c'est, non, on va faire ça un peu plus sérieusement. Donc, ce que je conseillerais, c'est effectivement, ça rejoint un peu le content design system, documenter le max de choses, les décisions qui sont prises, mais ça de manière générale sur la fonctionnalité, mais vraiment, c'est clé, je pense, pour faire, enfin, c'est clé pour faire scaler son équipe, parce que ce sera le point de référence, ça évitera à l'équipe se poser des questions, c'est bien, mais parfois, en fait, du coup, tu auras directement l'information qui sera documentée, tu sais pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi cette décision, elle est mieux que celle-ci. Donc, documenter, on aurait dû le faire, je pense, côté UX Writing plus tôt. Après, voilà, quand t'es tout seul aussi ou quand t'es très peu, t'es focus vraiment sur la production. Donc, c'est parfois dur aussi de prendre du recul et de sortir de ça pour se focus sur la partie un peu plus tooling. Mais je sais que c'était pareil côté product design où au début, c'était beaucoup, Mike en avait un petit peu parlé, mais voilà, c'était des plus petites équipes et tu prends des décisions comme ça sans tout documenter. Donc, ça, je pense que c'est clé. Et en fait, ouais, vraiment avoir cette capacité du coup d'adaptation. Moi, je vais pas mentir, ça a pas toujours été simple. Du coup, en fait, il faut constamment du coup pas retrouver ta place, mais du coup t'adapter à l'environnement qu'il y a autour et s'assurer aussi du coup en tant que lead du coup que chaque membre de mon équipe et de manière générale de l'équipe UX Writing va trouver sa place aussi bien au sein de l'équipe UX Writing que du design studio. Je sais pas si j'ai oublié des éléments ou si j'ai oublié une partie de ta question peut-être.
Est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas marché après comme tu le disais, comme vous êtes vachement en test and learn,
ouais.
Techniquement...
On arrête très vite si ça ne fonctionne pas, mais typiquement, ce que je vais dire un petit peu tout du long, mais on l'a toujours dit chez Conto dans les différentes interventions que moi j'ai faites, c'est qu'on cherche vraiment encore quand est-ce que c'est le meilleur moment pour un UX writer d'intervenir. On a essayé tout à la fin, on s'est dit non, on a essayé tout au début, et alors des fois ça c'est indispensable et ça a du sens, mais des fois on se dit peut-être qu'en fait on pourrait arriver un peu plus en phase de conception et qu'on pourrait du coup parce que c'est pas une nouvelle fonctionnalité, parce qu'on n'a pas besoin de refaire de la recherche de zéro, on pourrait du coup s'appuyer sur les autres expertises qui nous transmettent cette recherche après et qu'on intervienne plutôt sur la phase de conception.
Okay.
Donc c'est vraiment ça en fait, on a juste de manière continue, mais il y a des choses qui n'ont pas marché, mais c'est vrai qu'on les a très vite réglées, disons.
Ça marche. Du coup, le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est l'évolution des gens dans ton équipe.
Oui.
T'en as parlé tout à l'heure, vous avez un career pass, donc vous savez à peu près où se situent les gens, comment. Mais la question, c'est en fait, comment tu fais évoluer les gens dans ton équipe, quels sont les moyens mis en place. T'as parlé tout à l'heure de la question où tu demandes aux gens tout simplement ce qu'ils veulent faire, ce sur quoi ils veulent travailler, ou sur quoi ils veulent grandir. Quelles sont les méthodes, les moyens qui sont mis en place justement pour faire grandir les gens dans ton équipe?
Oui, c'est hyper, hyper pertinent et c'est clé, effectivement. C'est vraiment, je pense, c'est une discussion vraiment à avoir, mais de manière continue, pas à un instant T de « viens, on va parler de ta carrière maintenant », mais c'est dans la manière dont tu travailles avec chaque membre de ton équipe. C'est une relation de confiance, du coup, qui doit se mettre en place. Et donc, pareil, tu vas forcément déceler chez les membres de ton équipe de « ok, lui, je le vois vraiment en tant qu'expert, il a vraiment ce truc » ou le management, parce qu'en plus le management, c'est très drôle parce que, pour la petite histoire, moi, quand j'ai rejoint Conto, je me suis vraiment mis en tête « je serai experte ». Je voulais juste être entre énormes guillemets, parce que je sais que c'est impossible, mais d'être la meilleure dans ce que je faisais, la meilleure à mon niveau et on s'entend avec toutes les failles que ça peut comporter, mais j'étais « moi, je serai experte ». Et visiblement... mon manager avait d'autres plans pour moi. Et moi, j'étais genre vraiment, non, mais je pars côté experte. Et jusqu'à ce qu'ils me disent, mais vraiment, je te vois vraiment en tant que lead. Et donc voilà, ça a été, il m'a aussi partagé son point de vue, pourquoi il me voyait en tant que lead. Je pense qu'il y avait un gros syndrome de l'imposteur où j'étais genre...
Sans regret donc.
Hein, sans regret. Ouais, c'est très drôle parce qu'on a eu cette conversation justement il y a 2 mois, fin d'année dernière, pour faire du coup le bilan. Il me fait, est-ce que tu regrettes? J'étais, non, pas du tout. Il me fait, je le savais. Et donc voilà, il m'a dit, j'avais vraiment décelé ça chez toi et j'apprends énormément, mais dans le sens où... En plus, quand tu sors du coup de l'expertise, c'est un tout autre métier. Vraiment, cette idée d'avoir des humains en face de moi, et j'étais genre, oh, mon Dieu, mais je peux pas. Et en fait, j'adore, et je suis hyper épanouie dans ce rôle. Pardon, mais tout ça pour revenir. Donc, c'est vraiment une discussion aussi, et ça va être, toi, t'as envie de quoi? Qu'est-ce que moi aussi je perçois pour eux? Et c'est vraiment donc une discussion vraiment de manière très très ouverte et basée sur la confiance. Mais ensuite ça va se construire en fait au quotidien. Par exemple, nous, toutes les semaines, on a ce qu'on appelle un gemba. Donc, comme tu sais, on est très très lean et donc très très mot japonais, mais ça va être vraiment un exercice qu'on va faire du coup manager et membre de ton équipe, où en fait on va aller sur le terrain de « ok, tu bosses sur quoi en ce moment ?» et c'est trouver une problématique et réfléchir ensemble. Et vraiment, ça va être... moi, comment je vais faire évoluer l'équipe, ça va être ça. Du coup, des moments de réflexion ensemble. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de construire du coup du savoir pour eux, mais depuis avec eux, pour D'accord. eux, et en fait, depuis ce qu'ils font. Et pas juste vraiment... high level, où j'ai aucune idée de ce qui se passe sur le terrain, et des choses, en fait, leur donner plus des modèles pour qu'eux puissent se poser les questions après et qu'ils n'aient pas besoin de moi pour le faire.
Un peu comme du pair design ou du pair coding.
Et exactement, en fait, ça va être les pousser plus à la réflexion, au lieu de leur donner les réponses tout de suite, et ce qui parfois on va là, mais vraiment avoir ce moment de réflexion pour qu'eux, en fait, aient des modèles, développent de nouveaux modèles, aiguisent ceux qu'ils ont déjà, potentiellement cassent ceux qu'ils ont et en reconstruisent de nouveaux. Et ça va être vraiment comme ça qu'on va les voir évoluer, après plus ou moins avec l'autonomie du coup que tu peux avoir, la posture aussi que tu peux avoir. Et après, ça va être pratiquer encore et encore, te tromper, réessayer, repratiquer, et c'est vraiment comme ça que t'aiguises aussi après ton expertise, et aussi que tu gagnes en seniorité. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux facilement voir à partir du moment en fait où parce qu'au début tu vas avoir du coup un impact sur l'équipe UX Writing, puis un impact sur ta CFT, et puis ensuite tu vas avoir un impact vraiment sur de manière plus générale sur l'équipe design ou l'équipe produit, et c'est là vraiment où du coup tu passes aussi à l'étape supérieure. Moi, enfin, je le vois sans ramener les choses à moi, mais c'est comme ça que j'ai pu voir l'évolution aussi de ok, j'arrive à ma petite échelle à faire un truc qui est pas trop mal, et comment j'arrive à maximiser cet impact pour du coup entraîner le plus de gens et du coup toucher le plus de personnes de manière positive par le travail que je fais.
Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. Avant que je ne te dise au revoir, est-ce qu'il y a peut-être des sujets que tu aurais voulu aborder, qu'on n'a pas abordé, ou des choses dont tu voudrais qu'on parle, dont on n'a pas parlé?
En vrai, c'était hyper pertinent. Je sais, quand tu m'as écrit, je t'avais dit, j'ai pas envie qu'on parle de moi. Ce sera pas... Bon, j'ai fait quand même quelques apartés, mais dans le sens, je voulais vraiment qu'on parle plus de l'équipe et de comment ça fonctionne chez Conto. Donc, je suis contente. On a couvert, pas mal de sujets. peut-être, mais on a déjà tellement parlé, il y a déjà tellement de ressources sur ça, parce que je pense aussi que si l'équipe en est là aujourd'hui, c'est vraiment avec la méthodologie avec laquelle on travaille, avec le fameux Contoway, qui est vraiment clé, justement, en fait, enfin, au final, tout ce que je t'ai présenté, cette idée de réflexion, c'est vraiment lié à ça. C'est vrai que je parlais aussi beaucoup de challenge. En fait, le Contoway, c'est vraiment fait pour montrer ce qui va pas, tous les problèmes que tu peux avoir, et ça fait mal. En vrai, ça fait mal, mais c'est génial parce que du coup, ça te pousse à t'améliorer de manière continue, en fait, et vraiment à te pousser à chaque fois à être meilleur. Mais pour ça, il faut voir effectivement qu'est-ce que tu ne sais pas faire, qu'est-ce que tu peux améliorer, et vraiment qu'est-ce qui est cassé. Mais pour le coup, on peut trouver énormément de ressources sur ça. Je suis également complètement dispo pour répondre à toutes les questions s'il y en a, ou en discuter plus en détail.
Super. Et du coup, si les gens veulent te contacter, on les envoie LinkedIn.
Mon LinkedIn.
Ton LinkedIn.
Vraiment. Mélanie Alves Lima. Je répondrai avec plaisir.
Je mettrai le lien dans la description. Et je mettrai le lien dans la description de tout ce dont on a parlé aujourd'hui.
Ouais.
Pour que les gens puissent retrouver assez facilement tout ça.
Ouais. Peut-être un point, parce que tout à l'heure, justement, tu me demandais pour ceux qui voulaient se former à l'UX Writing, le timing est parfait puisque j'ai deux de mes collègues.
Tu vas parler d'Apolline.
Bien sûr, d'Apolline et Clara, qui est aussi une très bonne amie maintenant dans la vie, et qui ont lancé du coup leur école de formation en français, ce qui il y en a très peu, qui s'appelle donc Lorem. J'adore, parce que tout à l'heure on parlait de Lorem Ipsum dans ce fameux test. Et en fait, c'est juste deux nanas hyper, hyper talentueuses. Je travaille avec elles au quotidien. Donc, puis elles ont aussi fait leur... Bon, Apolline avait vraiment aussi une autre carrière en tant que UX writer avant de nous rejoindre. Mais je vois ce qu'elles font au quotidien chez Conto. Donc, je sais aussi qu'elles ont fait leurs armes chez Conto. Donc, ça ne peut être que Cali. Donc, voilà, elles ont déjà lancé tout ça. Il me semble que la première formation, si je dis pas de bêtises, arrive d'ici un mois. Mais pareil, si tu peux partager le lien, ce sera avec plaisir. Et en fait, ça sera l'un des meilleurs moyens aussi de te former, d'être accompagné en français, d'autant plus où il y a de plus en plus de livres, et Gladys avait écrit un super livre aussi. Il y a de plus en plus de ressources, mais du coup, un accompagnement comme ça, il y en a pas encore énormément. Les plus grosses boîtes qui peuvent t'accompagner, ça va être du UX Writing Hub, UX Writing UX Content, si j'ai pas de bêtises, mais voilà, en français c'est plutôt rare, donc voilà, elles ont plusieurs formules, aussi bien du coup dédiées aux entreprises, aussi pas pareil les entreprises, si parfois ça peut aussi il y en a qui mettent pas qui n'ont pas du UX writer, mais du coup qui prennent des gens externes juste pour former leur product manager et leur product designer, et leur donner déjà un peu une petite boîte à outils, clé en main, et de OK, ça, déjà avec ça, ça ne peut qu'être mieux. Donc je sais que ça sera partie des offres qu'elles proposeront. Donc ouais, je pense que Lorem a un très bel avenir de...
Je mettrai le lien dans la description. Super. Et je pense que tu n'es pas au courant, mais il y a ma petite voix aussi dans leur formation.
Je ne savais pas, voilà. Et donc j'ai encore plus hâte.
Non, j'explique juste le métier de product designer.
Super.
J'ai pas été coupé au montage. mais en tout cas, oui, je mettrai aussi le lien dans la description, parce que ça m'a l'air d'être super ce qu'elle prépare.
Oui.
Donc ça va être chouette. Écoute, Mélanie, merci beaucoup pour ton temps.
Merci.
C'était
à toi,
hyper
Gauthier.
Enrichissant, hyper intéressant, et j'ai vraiment hâte de partager cet épisode, parce que c'est pas tous les jours, en fait, on parle du X-Writing sur le podcast, et encore moins dans des équipes de 20 personnes. Donc c'est vraiment très intéressant de voir comment vous avez grandi, et comment vous êtes structuré aujourd'hui, comment vous évoluez. Donc merci encore.
Merci à toi pour l'invitation et du coup pour cette discussion qui était très cool.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À bientôt.
Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.